Oui, on est en pleine période de rentrée. Hein. J'espère bon, qu'il y en a encore qui sont peut-être en préparation, d'autres qui ont bien attaqué. Et la rentrée, c'est marrant, un peu comme aussi Lydia en a parlé. C'est aussi cette... Il y a une continuité, parce que voilà, c'est pas la première rentrée que l'on fait, mais il y a aussi un peu des transformations, des changements. Et ça me fait penser, bon, de loin, hein, mais au sujet donc qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la suite d'1 Corinthiens 15. On voulait revenir sur ce, continuer la réflexion sur la résurrection. Et on verra justement que la résurrection, notre résurrection, c'est ça aussi. C'est il y a une continuité, mais quelque chose, une transformation qui se fait. Donc la résurrection nous projette en avant. On l'a parlé, on ne sait pas trop ce que c'est que l'éternité, on peut se poser plein de questions, mais ça empêche qu'il y a une transformation et la résurrection, elle nous met en marche. Elle nous donne une espérance, elle nous donne quelque chose, une vision, quelque chose qui nous construit et qui nous oriente. Et donc on en est au chapitre 15, on en est pratiquement à la fin de l'Épître, et on avait vu justement, on a vu que dans les chapitres précédents, ben, qu'à Corinthe, c'était vraiment pas ça. Et Paul, il n'y va pas vraiment par quatre chemins. Alors il nous a fait état des incestes, des procès entre chrétiens, de l'inconduite, d'autres débordements qui avaient, et tout ça faisait le quotidien des chrétiens de Corinthe. Et donc on aurait pu penser que c'était fini. Et là, il est vrai que jusqu'à présent, Paul a abordé des sujets qui étaient plus d'ordre de l'éthique que de l'ordre de la doctrine. Et ces sujets touchaient plus au comportement, donc et sur ce que les Corinthiens manifestaient dans leur vie. Et là, donc, Paul semble avoir gardé pour la fin la question qu'il considère comme la plus sérieuse et qui semble être finalement la racine des problèmes dans cette Église. Et cette racine, c'est une mauvaise doctrine. Une mauvaise doctrine, c'est une mauvaise compréhension du plan de Dieu. Et Jean-Paul, donc, avait abordé la première partie de ce chapitre et avec cet aspect vraiment de la réalité de la résurrection de Christ. Et avec cette réalité, la résurrection de Christ, la certitude de notre propre résurrection d'entre les morts, en tant qu'enfant de Dieu, quand Christ viendra à nouveau. Alors je vous propose là de poursuivre cette réflexion et de voir vraiment comment, à notre tour, Paul aborde la résurrection de nos propres corps. Et mardi, lors de l'étude, on réfléchira un peu plus ensemble sur l'impact de notre résurrection maintenant dans nos vies quotidiennes, parce que nous sommes des ressuscités en puissance. Alors je vous propose de lire, quand même pour avoir une idée de ce texte, plusieurs versets de ce chapitre. Voilà, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité, si les morts donc ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et la suite. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il rendra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et un peu plus loin, donc si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Alors là, c'est un peu long, mais il faut quand même le lire. Il faut juste, je vous demande de lire en voyant derrière l'effort que Paul essaye de faire pour nous décrire le mystère qu'il avait compris de la résurrection. C'est tellement peu naturel, la résurrection, que Paul, là, vraiment, s'est cassé la tête. Donc, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Courage, hein. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de formes. Plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Et s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pour ça qu'il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et encore la fin, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire ». Et la conclusion de ce chapitre, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Voilà cette idée de dynamique qui est à la fin, finalement. Non, la résurrection est réelle. Oui, vous êtes changé. Vous aurez une partie de la matière que nous avons ici qui sera dans le ciel, et nous aurons aussi des récompenses dans ce ciel. Donc la résurrection, dès le début du chapitre, finalement, Paul revient à la doctrine qu'il avait enseignée. Et donc par lequel les Corinthiens et les chrétiens sont sauvés. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Donc la résurrection avec la mort de Christ, ce sont les éléments majeurs qui constituent la foi chrétienne. Et la raison, et la résurrection plus particulièrement, est ce qui participe, donc comme je le disais, à mettre notre foi en marche, car elle est l'assurance de notre vie éternelle dans la présence de Dieu. Alors que la mort de Christ, à notre place, c'est le seul moyen qui soit donné à l'homme pour voir ses péchés effacés. La résurrection est la seule garantie que nous avons de la réalité éternelle. Toute la prédication de Paul donc, a pour objectif de démontrer que sans résurrection, notre foi est vaine. Et à plusieurs reprises, même dans d'autres épîtres écrites par d'autres apôtres, ils mettent en avant la résurrection pour justifier la nécessité de vivre notre foi de façon active. Et comme on l'a lu à la fin de ce chapitre, voilà, travaillez, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Donc lorsque nous décidons de suivre Jésus-Christ, oui, ce n'est pas forcément pour l'idée de recevoir des récompenses. Cela n'empêche que la résurrection fait partie du plan parfait de Dieu et elle participe donc déjà maintenant à nous tirer à cette transformation, à nous tirer toujours plus vers le haut pour nous mettre dans une dynamique au service de notre Seigneur. Alors si dans cette lettre aux Corinthiens, Paul insiste autant sur la réalité de la résurrection, c'est parce que leur doctrine avait du mal à intégrer la réalité et les effets de la résurrection dans leur vie. Pour des esprits aussi spirituels et nobles que de ces Corinthiens, qui étaient de culture grecque, qui étaient remplis de sagesse, d'éloquence, il était insupportable d'imaginer qu'il existe une puissance autre que celle du Christ qui domine sur eux. Paul en parle, c'est cette puissance de la mort. De même, imaginer que des cadavres puissent se relever, pour eux, était choquant. Et donc la pensée grecque valorisait plutôt l'âme au détriment de la matière, car elle considérait la matière moins noble, voire corrompue, parce qu'à cause d'elle, l'âme était souillée. Ils considéraient que le corps emprisonne l'âme. Et finalement, on peut résumer leur pensée qui disait la résurrection dont parlent les chrétiens ne serait-elle pas finalement qu'un renouvellement intérieur effectué par l'esprit et dont l'âme bénéficierait pour l'éternité, mais finalement le corps, lui, en serait exclu. Et toute la démonstration de Paul dans ce chapitre vise à démontrer ces fausses doctrines qui influençaient négativement leur foi, minimisaient ainsi la résurrection, c'est-à-dire la matière, la vie nouvelle de la matière, revient à annuler l'œuvre de Christ dans son ensemble. Christ n'est pas seulement venu effacer nos péchés par sa mort, n'est pas seulement venu nous laver, il est venu aussi par la suite avec le Saint-Esprit pour faire de nous des hommes et des femmes nouveaux avec lui. Nouveau corps, âme, esprit. Et dans le but finalement de nous réunir pour l'éternité avec lui. Et le verset 19 que je souligne, qu'on a lu, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Les versets 32 à 34 nous encourage finalement à revoir aussi le schéma de pensée stupide. Donc si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et là, Paul réagit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, revenez à vous-même, comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Et la mauvaise doctrine de la résurrection que les Corinthiens détenaient de leur culture, donc qui était entre guillemets pleine de sagesse, était stupide. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Paul l'a considéré de mauvaise compagnie. Et c'était une des raisons de la situation de corruption dans l'Église. Et ils étaient responsables de cela. Nous pouvons d'ailleurs nous poser la question, pour nous aussi, si l'enseignement et l'influence reçue de notre culture, qui nous encourage à mettre de côté Dieu, n'est pas un obstacle à l'épanouissement de notre foi et à la véritable connaissance de Dieu. Je lisais encore hier un article, peut-être vous l'avez vu, parce qu'il était, vous savez, sur le... c'est des news qui apparaissent sur le portable. C'est un article certainement d'un philosophe qui a intitulé « Dieu est bel et bien mort ». Et la phrase que j'ai relevée dans cet article, voilà, plus d'un siècle après que Nietzsche eut proclamé sa mort, Dieu semble de retour. Mais c'est un mirage. Dieu est mort. C'est juste qu'il faut du temps pour se débarrasser du corps. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu, disait Paul. Ça me fait écho à cela. Le Dieu que nous connaissons est le Dieu vivant et vrai. Amen. Il n'est pas possible de se débarrasser du corps vivant, du ressuscité. Amen. Et il est fait partie de notre vie. Et combien de sujets dans la Bible nous interrogent ou nous laissent perplexes tout simplement parce qu'ils sont dans décalage avec les schémas de pensée à la mode. Et il est d'autant plus important de connaître Dieu et la vérité de sa parole. Je le répète, la résurrection de nos corps fait partie intégrante du plan de salut pour nous amener à la perfection. L'idée de la résurrection se situe pleinement dans la logique de l'intention originelle de Dieu, établir son règne sur l'univers entier. En Christ, donc, Dieu a dévoilé son plan et l'a mis en œuvre. En Adam, ça n'avait pas été possible. La réalité de la résurrection est ancrée dans l'histoire. Non, la résurrection n'est pas quelque chose qui a été ajouté. Elle n'est pas non plus une image. Oui, elle fait partie intégrante de la foi dès l'origine. Mieux encore, elle est conforme aux Écritures, rappelle Paul. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc il faut reconnaître quand même qu'à la décharge des Corinthiens, il est difficile de comprendre ce qu'est un corps ressuscité. Et nos corps sont tellement marqués par la faiblesse qu'on peut avoir du mal à leur imaginer qu'ils ont une place dans la nouvelle création. Et Paul sent bien finalement cette difficulté, d'où tout ce texte-là des images qu'il prend de semences, animaux, planètes. Ce corps corruptible qui est promis incorruptible qui est promis aux croyants, et il est aussi indescriptible. Ou en tout cas, il n'est pas à la portée des mots habituels. Et Paul fait donc un effort dans cette description et dans les images qu'il choisit pour nous inciter aussi à faire un effort, nous, d'imagination. On ne peut pas imposer des limites à Dieu à cause des limites de notre compréhension ou de notre intelligence. Il dit insensé. La résurrection est l'événement qui fait le lien entre le corps présent qui est faible et le corps à venir incorruptible. Donc c'est un événement un peu anodin, un peu comme une rentrée, qui est fait de continuité et puis de nouveauté. Un événement de permanence et de transformation, comme lorsqu'on passe un vêtement nouveau, comme lorsque la graine devient plante. Et c'est ce paradoxe-là qui est très difficile à décrire, le passage d'un corps donc, qui est régi par notre seule vie naturelle à un corps qui est régi par l'esprit, mais qui reste corps quand même, comme Christ. Comme le Christ a son corps. Ainsi, Paul veut démontrer par là que la différence physique entre nos corps mortels actuels et ceux qui seront ressuscités ou changés n'est pas si importante que cela. D'ailleurs, nous pouvons nous interroger comment les disciples reconnaissent Moïse et Élie sur la montagne, si ce n'est sur des bases des critères physiques. Et cette différence, finalement, elle est due uniquement par le fait que la mort n'est pas encore réduite à l'impuissance. Il y a ce verset qui est assez difficile peut-être à comprendre. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Le sacrifice de Christ et sa résurrection ont vaincu Satan. Le plus gros a été fait là, à la croix. Et grâce à cette œuvre immense, la vie éternelle et par elle la sanctification de nos corps fait son travail de salut en chacun de nous et son œuvre de transformation. Oui, la mort nous attend, tous un jour ou l'autre. Mais pour nous, elle n'est plus entre les mains de Satan. La mort n'est plus entre les mains de Satan, mais entre les mains de notre Seigneur. Et là, juste, je voudrais lire ce verset Hébreux 2, 14. « Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Lors de chaque moment de Sainte-Cène, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Lors de chaque moment de Sainte-Cène, nous annonçons l'impuissance de celui qui exerçait le pouvoir de la mort sur nous. Et là, nous allons partager la Sainte-Cène. Et nous contemplons la victoire totale de Christ. Par sa mort, Christ a vaincu Satan. Parce que c'est Christ qui a remis lui-même sa vie. Ce n'est pas Satan qui a décidé. C'est lui-même qui a décidé sa vie dans un dernier souffle. Et puis les témoins qui étaient là, les soldats qui étaient là, ben, ils ont été surpris. Et désormais pour nous, enfants de Dieu, nos vies sont entre ses mains, entre les mains de notre Sauveur. Et ce n'est plus Satan qui décide de notre mort terrestre, mais notre Seigneur et Sauveur. Et ensuite, par sa résurrection, Christ a vaincu la mort. La mort n'avait pas d'accroche sur lui. La mort ne pouvait plus le retenir. Et au bout des 3 jours, la puissance de Christ était telle qu'elle ne pouvait pas être contenue dans la mort. Et finalement, ce corps mort n'avait pas d'autre destinée que de ressusciter. Et pour nous, c'est la même chose. Nous avons désormais cette vie en Christ. Nous pourrons mourir, ceux qui nous ont devancés, avec la foi, avec la confiance qu'ils ont mis en l'œuvre de Christ, au salut de Christ. La puissance de la vie qui est en eux, leur corps ne pourra pas avoir d'autre destinée que d'être transformé et de vivre. Alors je vous propose de prendre la Sainte-Cène avec cette image, d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais on annonce aussi que le diable, maintenant aussi, on proclame cela par ce geste, que le diable ne peut plus exercer son pouvoir qu'il a sur plein peut-être d'autres personnes dans ce monde. Mais sur nous, c'est Christ qui décidera.
Tu es ma tempête.
Quel émerveillement devant cette œuvre parfaite, quel bonheur, quelle assurance pour nous vraiment quand on s'approche de ce plan parfait. Et c'est pour ça qu'on doit aussi s'encourager à se mettre en œuvre, à inviter d'autres à nous rejoindre, que d'autres acceptent ce plan. Mais ce plan n'a pour l'instant pas été appliqué jusqu'au bout. Il a été appliqué jusqu'au bout par un seul homme, Christ. Et maintenant, il reste à l'appliquer à tous ceux qui appartiennent au Christ. La mort sera vaincue définitivement lors de son retour, quand il se lèvera de son trône, là comme on l'a chanté, lorsqu'il viendra réunir tout son peuple. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Ouais, qui sait, peut-être. Peut-être on sera changé. Paul, il en était convaincu. On ne connaîtrait pas la mort. En un clin d'œil, nos corps auront revêtu l'immortalité. Et la mort aura été engloutie dans la victoire. Donc en attendant son retour glorieux, nous avons donné notre vie à Christ. Et un lien maintenant, un lien indestructible nous lie, nous unit à Christ. Par le Saint-Esprit, nous avons cette vie nouvelle du ressuscité. C'est cette vie-là qui nous anime désormais. Elle anime d'un désir qui va nous pousser toujours plus à le servir. Un désir qui c'est cet amour qui nous transforme et qui va nous rendre capables de le faire avec toujours plus d'efficacité. Donc c'est notre défi d'accepter cette mission, de nous revêtir à chacun. Et quel que soit ce qu'en pense les médias, les meilleurs philosophes qui pensent que Dieu est mort. Mais nous, on en a la preuve qu'il est plus que vivant. Et même, Paul, il disait, même dans les faiblesses, je suis plus que vainqueur. Voilà, nous sommes donc des ressuscités en puissance. Vraiment que, voilà, c'est dans cette idée de rentrer, que nous soyons imbibé de cette... on l'est imbibé, mais vous voyez ce que je veux dire, que nos corps maintenant reflètent cette vie de résurrection et même dans nos douleurs, dans nos peines, dans tout, quoi. C'est quelque chose qui est là, qui est réel, c'est pas un mythe. Stop le mysticisme, c'est du concret, là. Voilà, vraiment, je veux remettre encore cette rentrée à chacun entre les mains de notre Seigneur. Oui, veuille nous bénir, notre Dieu. Merci pour ce plan, c'est vrai, parfait. Merci pour cette œuvre de transformation. On n'est pas toujours conscient que tu fais ça en nous. On a tendance toujours à voir que le spirituel, à voir que ce qui te touche, mais c'est toi-même, Seigneur, qui es venu t'approcher de nous. Tu es venu en simple homme, en serviteur. Tu as connu les mêmes souffrances, les mêmes misères que nous. Mais tu n'es pas venu là pour nous laisser dans nos misères, même dans notre corps. Tu es venu pour le transformer déjà maintenant, tu es venu pour le renouveler, tu es venu pour lui faire du bien, pour le soigner, pour le guérir déjà maintenant. Et notre Dieu, nous voulons encore réaliser cela dans nos corps, dans notre être tout entier, Seigneur. Oui, tu aimes aussi le corps parce que c'est ainsi que tu nous as créés. On a tendance, c'est vrai, à vouloir oublier cela et on te demande... pardon pour des fois notre orgueil à vouloir nous élever au-delà de ce que nous sommes réellement. Merci parce que nous sommes des créatures uniques. On est tous faits avec un corps différent, on le répète souvent, mais c'est ce corps que tu as créé toi et que tu es passionné par chacun de nos corps et de notre être. Oui, nous te le rendons grâce parce que tu veux encore nous bénir, tu veux nous faire du bien encore dans cette rentrée, dans ces jours qui viennent. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Bonjour à ceux que je n'ai pas encore croisés. Et un grand merci pour ce que nous avons reçu ce matin. Merci surtout à notre Dieu de nous faire avancer, de nous faire progresser comme cela. Je vous laisse découvrir les annonces du programme de la semaine. vous avez remarqué, c'est la reprise. Demain, le Femme Club se retrouve chez Lydia. Et mardi, on a donc l'étude biblique. Pierre nous l'a expliqué, ça va être la suite ou la continuité de ce culte de ce matin. Et on vous invite à vous imprégner vraiment de cette fin des 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, lisez-le, relisez-le, pour être vraiment imprégné de ce que Paul nous transmet par là. Jeudi, c'est la reprise de la chorale. C'est de nouveau une reprise. Qui dit reprise, qui dit aussi le fait que c'est plus facile pour quelqu'un qui voudrait peut-être rentrer dans la chorale. Alors voilà, sentez-vous libre de vouloir aussi y participer. Le samedi 16, donc dans 2 semaines, il y aura explosion de louanges et ce sera à Mûri. Et puis le jeudi 21, un petit peu plus loin, c'est la reprise d'une nouvelle série de cours alpha couple ou de cours elle et lui. Donc le jeudi 21, ce sera une soirée découverte. Donc ce sont des soirées qui sont dédiées aux couples pour aider les couples à mieux s'entendre, à mieux partager, à mieux vivre ensemble. Et donc le jeudi 21, c'est une soirée découverte, donc une soirée pour savoir ce que c'est. Une soirée qui n'engage en rien, mais une soirée qui permet de voir concrètement qu'est-ce que ça représente. Alors j'ai mis sur le mur au fond de la salle les indications par rapport à cela. Donc il y a cette soirée découverte le 21 septembre, puis ensuite il y aura 8 soirées qui commenceront le 5 octobre. Et on encourage vivement les couples qui n'y ont pas participé. D'y participer, c'est vraiment un temps précieux qu'il faut mettre à part pour soigner les couples aussi dans l'Église. Les 23 et 24 septembre, on sera en week-end d'Église. On sera donc à Champfleury. Donc il n'y aura pas de culte ici le dimanche, le 24. Par contre, c'est important de s'inscrire. Et puis pour ça, il y a une feuille au fond de la salle sur le tableau. Alors c'est important de s'inscrire quand même assez à l'avance parce qu'ils ont besoin de savoir combien de personnes on sera aussi à l'avance pour prévoir. Et puis il y a différentes possibilités, notamment le fait de pouvoir prendre le repas de samedi midi sur place ou bien d'arriver dans le courant de l'après-midi, ce qui modifie, ce qui change un petit peu les inscriptions. Donc voilà, inscrivez-vous rapidement en tenant compte aussi de ces différentes possibilités de participation. Puisqu'on est dans les inscriptions, c'est aussi le moment de s'inscrire pour les thé-cafés. Il y a déjà quelqu'un pour dans 15 jours, mais après, c'est le trou. Donc voilà, on vous invite à participer, parce que ce sont vraiment des moments utiles pour la communion aussi entre nous. Une annonce toute pratique, il va y avoir un vide-grenier à l'église. Non, c'est une petite façon de parler. Les objets trouvés de toutes sortes vont être mis sur les 2 tables qui sont devant l'escalier de l'église, après le culte. Alors, allez y faire un tour. Si vous avez perdu quelque chose, si vous avez égaré quelque chose, peut-être que vous allez le retrouver. Mais vraiment, allez y faire un tour, parce que c'est la dernière fois que ce sera mis à disposition. Après, voilà, ça va disparaître. Continuons de penser à ceux qui souffrent dans leur santé. Annelise est parmi nous ce matin. On se réjouit vraiment que tu sois là. Sois béni. On veut continuer de prier pour toi, de penser à toi. Il faut prier pour se réjouir et pour remercier. Il faut remercier, ouais. Voilà, donc Annelise suit un traitement qui est récent, à base de laser. Et donc elle a eu, il y a 9 ou 10 jours, le 3e traitement. Voilà, et ces traitements s'avèrent très efficaces. Et donc la plaie va mieux, la cicatrice se rétrécit et c'est vraiment un exaucement de prière et quelque chose vraiment de réjouissant pour Annelise et pour chacun de nous aussi. John commence une nouvelle étape dans son traitement. Il va prochainement entrer à l'hôpital de jour de la clinique Regina à Annecy. Et ce, pour 2 jours par semaine. Donc, continuons vraiment de penser à John, de prier pour lui. On continue de penser aussi à Isabelle. Que Dieu te renouvelle, que Dieu vous renouvelle, vous fortifie. Et se manifeste aussi dans ce que vous vivez au quotidien. Brian et Hélène sont partis à Nice mardi. Ça fait un grand changement pour eux. On veut continuer de penser à eux. Ce n'est pas forcément évident, ces changements comme ça importants. Que Dieu les bénisse, les apaise pendant ce temps, leur donne aussi sa tranquillité. Alors ils transmettent à toute l'Église leur affection, leur salutation. On peut les joindre, donc ils ont un téléphone portable, on peut leur envoyer un email aussi. Voilà, on veut continuer de penser à eux pendant cette phase de changement. S'il n'y a rien d'autre à partager, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore 2 versets dans Éphésiens 3, les versets 20 et 21. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon dimanche et bonne semaine et bonne reprise à chacun.